Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint avec grand plaisir par Shai Mamou. Voilà, on a passé un week-end alors sans match de play-off NBA, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'informations basket à suivre de près. Avant qu'on parte sur un petit débrief du week-end, je voulais vous rappeler que la réédition de notre MOOC 2 spécial défense était toujours disponible en précommande. Attention, c'est vraiment une édition collector limitée, donc ne perdez pas trop de temps. Vous trouverez un lien en description de ce podcast et puis je vous mets sur YouTube un petit lien en haut. Voilà, tout se passe sur Basket Session.
Il y a les images des articles aussi qui sont sur le site, vous pouvez les voir, qui sont assez magnifiques. Voilà.
Ouais, exactement. On vous a détaillé tout le sommaire sur Basket Session. Vous trouverez les informations si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans. Je vous rappelle aussi que notre CQFR de samedi dernier, dans lequel Chai et moi répondions à vos questions, est toujours disponible. Si vous n'avez pas regardé, vous nous aviez posé encore des questions vraiment passionnantes. On a passé un très bon moment avec Chai. Et dans le podcast d'hier, dans le Hoop Culture d'hier avec Pierre Armand, on a fait un focus sur Boston et les Celtics, la riche histoire de cette franchise. Et je vous encourage à aller regarder, ne serait-ce que pour découvrir le coup de gueule de la semaine de Pierre Armand, qui est juste fantastique.
Je l'ai vu, voilà. C'était magnifique.
Je suis sûr que vous prendrez autant de plaisir que moi, parce que je l'ai découvert en direct. C'est de la poetry in motion, comme diraient les qui commentent les highlights de NBA. Donc voilà, faites-vous un petit plaisir à aller écouter le Hoop Culture. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Shai, on regardait un petit peu les sujets, donc actualité plutôt calme ce week-end malgré tout, du côté des Mavs et du côté des Celtics, on se prépare tranquillement pour le premier match des finales. Malgré tout, il y a une information quand même qui nous intéresse, nous particulièrement en tant que fan de basket et puis en tant que fan français, c'est de savoir ce que va faire Nicolas Batum, parce que c'est vrai qu'il avait laissé entendre que ça serait peut-être sa dernière saison, enfin c'était... Rien n'avait été très clair. On a compris malgré tout que les Sixers avaient envie de le convaincre de revenir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Shai?
Ouais, c'est une information de Keith Pompey du Philadelphia Inquirer. Alors, tu l'as dit, on est un peu toujours dans l'expectative quant à l'avenir de Nicolas Batum en NBA. Pendant la saison, il a sous-entendu que ça pourrait être la dernière. Il y a eu quelques tweets aussi de sa compagne qu'il avait laissé entendre. Donc, on ne savait pas vraiment si c'était une décision déjà prise ou s'il se laisserait porter par la suite de la saison. Il a bien aimé son expérience à Philadelphie. Le niveau est encore là, c'est-à-dire dans le rôle qui lui a été confié à Philadelphie, il a plutôt donné satisfaction. Nick Nurse l'a souvent félicité, l'a souvent complimenté. Et donc, Keith Pompey qui nous dit que parmi les trois joueurs qui sont free agent du côté des Sixers, c'est-à-dire Nicolas Batum, Kelly Oubre et Kyle Lowry, les Sixers veulent faire revenir les trois et Batum en particulier, notamment parce que, pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils ont aimé ce qu'il a apporté dans le leadership, dans le playmaking, dans la défense, et aussi parce que probablement ils ne demanderaient pas une somme gigantesque d'argent et que les Sixers aimeraient tenter des choses cet été et qu'il faudrait aussi solidifier l'effectif et la rotation avec des joueurs d'expérience comme Nico Batum. Donc on suppose qu'ils vont essayer de le convaincre, qu'il y aura des discussions. Est-ce que lui, au sortir des Jeux Olympiques, voudra poursuivre en NBA, voudra rentrer en Europe, voudra arrêter tout court? On ne sait pas vraiment, mais j'ai l'impression que la porte est peut-être un peu plus ouverte qu'elle ne l'était à un moment dans la saison.
Ouais, d'autant qu'il s'était quand même fondu assez rapidement dans cet effectif des Sixers. Comme tu l'as dit, s'ils veulent se renforcer, ils auront besoin de joueurs de qualité à la marge salariale, en tout cas. Donc des joueurs de qualité qui pourront compléter le roster et des joueurs qui plomberont pas la masse salariale. Moi, je pense que, honnêtement, Nico, je trouve qu'il a fait une bonne saison cette année. Son début avec les Clippers, puis à la fin avec les Sixers. Il y a même des matchs dans lesquels il était décisif au scoring, ce à quoi on s'attendait plus forcément. Moi, je pense qu'il y a quand même une belle aventure à faire, à jouer du côté des Sixers pour Nico s'il a encore envie de poursuivre. D'autant qu'on en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, mais sur le papier, en tout cas, cette équipe des Sixers, et bien sûr, on attend de voir ce qui va se produire cet été, mais elle devrait être parmi les, le groupe de tête de la conférence Est dès le départ.
Bah, avant que Joel Embiid ne se blesse, les Sixers étaient... Alors, je sais, faudrait que je re-regarde, mais j'allais dire au coude à coude avec Boston, mais en tout cas, c'était clairement la deuxième meilleure équipe de la conférence Est. L'Est est relativement ouvert, on va dire moins compétitif que n'est l'Ouest. Ça peut peut-être l'inciter à se dire, bon, bah, je vais disputer une dernière saison, ou pas d'ailleurs, hein, ça nous va très bien, il peut continuer autant qu'il veut, il n'y a pas de souci, mais il peut se dire qu'il y a à la fois la compétitivité au sein de cette équipe, qu'il y a la possibilité d'aller loin en play-off. finalement, il n'y a pas vraiment de raison, à part pour des raisons personnelles qui seraient très compréhensibles. Et s'il décidait d'arrêter, on le comprendrait. Mais sur ce qu'il a apporté, tu as raison, il a parfois été décisif offensivement, sur des shoots à trois points notamment. Défensivement, il fait toujours le job. Il a toujours ce côté facilitateur de jeu qui est très très précieux pour une équipe. C'est un gars qui comprend ce que demande un coach, qui a un bon relais sur le terrain. Il shootait encore à 39% à 3 points cette saison, en saison régulière avec Philadelphie. Alors, c'était sur un volume relativement faible par rapport à ce qu'il a pu connaître en carrière. Mais voilà, il était à 5 points, 4 rebonds et 39% à 3 points. Je pense que on a vu des joueurs bien, bien plus proches de la fin, en tout cas visuellement, continuer leur carrière. Moi, j'aimerais bien que Nico continue un peu. Après, je ne sais pas où il en est de sa réflexion, en fait. Je me demande si c'est corrélé à ce qui se passera aux Jeux Olympiques. Évidemment, il va en discuter avec sa famille, puisque ça m'a l'air quand même d'être le facteur principal. Donc, moi, j'aimerais bien le voir continuer, et je suis assez satisfait de voir que les Sixers ont ça aussi en tête. Alors, ils veulent proposer aussi à Kyle Lowry, qui tire un peu la langue quand même, hein, cette saison, et notamment en playoff, et Kelly Oubre qui a été important. Donc, les Sixers feraient bien je serais assez satisfait de leur point de vue s'ils arrivaient à ramener ces trois-là.
Ouais, c'est quand même trois joueurs Kelly Oubre, tu fais bien de le souligner, qui avait été très bon quand même avec les Sixers cette année. Kyle Lowry était pas mal, même en playoff finalement, tu vois. On se dit, enfin, il y a un moment, on se disait, bah, Miami aurait peut-être mieux fait de le conserver au bout du compte, parce qu'il aurait pu dépanner vu le nombre de blessures qui sont tombées sur le 8 à la fin de saison. Ouais. Voilà, après, on sait que Nicolas, son apport, il se lit pas forcément spécialement dans les stats, notamment dans les moyennes. Ouais, je pense qu'il y a un coup à jouer, je pense, pour Nicolas, s'il a envie de continuer un petit peu en NBA. Philadelphie, même si c'était pas son choix, finalement, il a été tradé, donc c'est pas une équipe qu'il avait choisie. Encore une fois, il s'est vite fondu dans le collectif. Et puis voilà, par son expérience, par ce que tu disais, facilitateur de jeu, c'est un joueur qui s'adapte très bien, qui comprend vite ce qui se passe, qui est demandé de lui. Voilà, t'as raison, faut attendons de voir ce que vont donner les Jeux Olympiques, attendons de voir aussi les autres moves que Philadelphie fera cet été. Je suis sûr qu'il y en aura, en tout cas, connaissant Daryl Morey, je pense pas qu'il soit satisfait de la construction de l'équipe en l'état. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger encore, mais au bout du compte, je pense que je suis plus confiant dans le fait qu'on retrouve Nico en NBA l'an prochain que peut-être à un moment de la saison où quand Philly était un peu dans le dur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Il y a un autre joueur dont on est sûr et certain qu'il sera là l'an prochain, parce que de toute façon, il n'a pas fini de jouer cette saison. C'est Luka Doncic. Alors, je vous sors la petite stat quand même. Donc, c'est du cumulé au total. Donc, sur toute la post-season, sur tous les playoffs. Donc, Luka Doncic est premier au nombre de points marqués, au nombre de rebonds pris, au nombre de passes décisives, d'interceptions, de paniers rentrés, de trois points marqués, de lancers francs marqués et de minutes. Une domination sans partage sur ses playoff, ce qui est d'autant qui s'explique par le fait que forcément plus longtemps tu joues en playoff, plus tu as de chances d'être haut dans ces classements. Mais ce qui est assez dingue en fait, Shai, c'est que à part peut-être sur les deux derniers matchs, on avait l'impression qu'il était très diminué encore dans ses playoffs, et on se disait même il fait pas les meilleurs playoffs de sa vie, il est pas tout à fait au meilleur de sa forme. Est-ce que tu t'étais rendu compte de ça déjà au fur et à mesure des playoffs, ou est-ce que tu as été surpris par cette stat?
Non, j'étais un peu surpris parce que je m'étais pas rendu compte du volume de tout ce qu'il avait fait jusque-là, et j'avais ce même sentiment que toi, c'est-à-dire qu'il jouait un peu diminué, ce qui l'empêchait pas de mettre des game winners, de faire quasiment un triple double un match sur deux. Enfin, ça reste Luka Doncic, hein, mais la seule stat en fait où je savais qu'il était en tête, j'étais à peu près persuadé, même si tu l'as pas évoqué, c'est le nombre de jurons en Slovène. j'étais à peu près certain que ça c'était en tête. Plus sérieusement, c'est dans la lignée de la campagne qu'il est en train de faire. On en avait parlé dans le podcast de la semaine dernière. Il fait des playoffs du coup qui sont all time, parce que en termes de production, ça se rapproche de ce qu'on fait seulement certains très très grands joueurs jusque là, c'est-à-dire LeBron, Jokic et Larry Bird. C'était le cumul de points passe rebond, je crois. C'est ce qu'on avait évoqué, je l'ai plus sous les yeux, mais il est sur une campagne playoff qui est déjà all time, et il est en train de nous montrer que c'est un joueur all time. C'était un peu le sujet de notre discussion de la dernière fois. Il a continué depuis, hein, avec ce match où ils ont bouclé la série contre Minnesota. Et cette emprise qu'il a sur le jeu, ce qui est étonnant, en fait, c'est que j'ai sans doute pas réalisé ces statistiques-là, parce que je trouve qu'il vampirise un petit peu moins le jeu au niveau de l'impression visuelle en tout cas, hein, qu'il est moins dans, il phagocyte moins le jeu qu'on a pu le penser à une époque. Peut-être parce que l'équipe est mieux construite autour de lui, que l'apport de Kyrie lui fait beaucoup de bien. Et au final, ça a du sens, hein, voilà, sur la longueur de la campagne des Mavs, ce qu'il apporte en termes de points, de rebonds, de tout ce que tu as cité, les efforts défensifs qui se retranscrivent aussi du coup dans ses stats, ce dont on a parlé déjà, les interceptions, tout ça. Il est en train de faire quelque chose d'incroyable sous nos yeux et faut en profiter. Je ne sais pas si ça va se poursuivre et se retranscrire lors de la finale, lors des finales contre les Celtics, mais j'ai hâte de voir ça.
Oui, bah, ça, on en reparlera peut-être un peu plus en détail cet après-midi. Enfin, en fin d'après-midi, vous trouverez un
Ouais.
podcast sur la chaîne qu'on fera avec Antoine, vraiment de preview de ces finales NBA. Mais t'as raison, Chad, dans ce que tu soulignes, c'est une campagne qui est quand même monstrueuse, potentiellement historique si jamais ça devait aller au bout. Et moi, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est finalement de se dire, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure en intro, c'est que jusqu'aux deux, trois derniers matchs de la série face aux Wolves, je le trouvais vraiment diminué physiquement, qui tirait la langue, tu vois, qui boitait. Même à 3 points, finalement, il n'a pas forcément le rendement qui a pu être le sien parfois dans la saison. C'est impressionnant et tu te dis, moi, avec presque une semaine de repos, je suis curieux de voir vraiment son état de forme dès le match 1 face aux Celtics. Je suis hyper curieux de voir quels seront les choix défensifs faits par Boston pour essayer d'enrayer cette machine à gagner impressionnante. Et finalement, c'est vrai que quand on faisait le podcast la semaine dernière, Shai, c'est toi qui avais proposé le sujet. On parlait alors, on ne disait pas que Doncic aujourd'hui était le GOAT, hein, ça n'a jamais été le but de la discussion. Simplement, parmi les différents aspects qu'on évoquait au sujet de Luka, on se posait la question de savoir s'il pourrait à terme rentrer dans la discussion pour, et en fait, d'un pur point de vue statistique, en fait, si tu imagines son rendement, un rendement tel qu'il est le sien pendant les, je sais pas, 8 ou 10 prochaines années, alors sachant que c'est un énorme pari, hein, parce qu'on sait la difficulté de maintenir un tel niveau de jeu, on sait, voilà, le poids des blessures, l'usure, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent en ligne de compte, mais il a que 25 ans. Et en fait, d'un pur point de vue statistique, s'il arrivait à maintenir son niveau de jeu actuel, je ne dis pas qu'il serait forcément le GOAT, mais si tu es dans une discussion ou d'un point de vue bête et méchant de statistiques de qui a fait le plus de quoi en NBA, il serait dans un club élite avec voilà, quelque chose comme LeBron, peut-être Jokic s'il continue sa carrière un peu plus longtemps, mais c'est une carrière. Enfin, il est quand même parti pour être. Encore une fois, je touche du bois, hein, parce que je souhaite de blessure à aucun athlète. Mais il est parti quand même pour faire une carrière monstrueuse et pour. Figurer au panthéon du basket à un moment, au même titre que d'autres. Le classement, on le verra à ce moment-là, la question sera pour plus tard, mais c'est quand même impressionnant ce à quoi on est en train d'assister.
Pour moi, c'était ça l'intérêt de mettre ça en avant, c'est-à-dire que c'est pas pour dire regardez, ça va être le GOAT ou machin, non, c'est strictement rien. Déjà, en soi, c'est une question un peu abstraite, hein. Chacun a un peu son avis dessus, les arguments qu'il veut, mais pour moi, c'était fou déjà que, avec ce qu'il est en train de réaliser, on puisse se dire que dans quelques années, il aura le droit de prétendre à ça. En tout cas, il y aura des arguments qui seront tout à fait entendables, alors que ça se compte sur les doigts de la main. Les joueurs, depuis qu'on regarde, qu'on suit la NBA depuis des décennies, depuis que Jordan a pris sa retraite, ça se compte sur les doigts de la main. Les joueurs qui peuvent avoir le droit d'entrer dans cette discussion, même LeBron, il a eu du mal à gagner cette crédibilité. C'est-à-dire qu'il lui a fallu la longévité, il lui a fallu gagner quelques titres, battre le nombre de points de Jabbar. Enfin, c'est énormément de trucs. Donc, juste le simple fait qu'on puisse se dire ça pour lui, pour moi, c'est déjà un truc incroyable et ça montre qu'on est en train d'assister à quelque chose de fou. Alors, il y a énormément de travail encore, de régularité à avoir, de fiabilité, tout ça. Mais pour moi, oui, avec le combo talent pur, accomplissement statistique qu'il est en mesure de faire, s'il continue sur ce rythme-là, il est sur des bases lebronesques, hein, s'il reste avec cette régularité-là. Le potentiel de titre aussi à remporter, s'il a encore 10 ans devant lui, qu'il gagne cette année, rien nous dit qu'il peut pas avoir 4 ou 5 bagues, on n'en sait rien. Pour moi, tout ça fait que il aura le droit, en tout cas, il y a la place pour, alors qu'il y a des joueurs, par exemple, enfin, c'est pas pour, je sais pas, quand Giannis a gagné son premier titre, ou même Jokic quelque part, je me suis jamais dit, il y a peut-être une ouverture pour qu'un jour on se dise que c'était le GOAT, tu vois. C'est une impression. Après, peut-être que certains l'ont pensé et c'est tout à fait leur droit. Même Curry, je crois que je me suis pas dit à un moment on va peut-être se demander si c'est pas le GOAT, tu vois. Doncic, je me ferme pas la possibilité de le penser à un moment, mais il reste énormément de travail. C'est juste ça, c'est juste que je trouve que c'est un exploit fou de qu'il réussisse à entrouvrir cette fenêtre qui est franchement dure à ouvrir.
Ouais. Alors voilà, encore une fois, on n'est pas en train de faire un raccourci. Il n'a pas encore gagné le moindre titre, donc ça passera par ça. En gagner 4, 5, c'est des, voilà, c'est des parcours et des carrières qui sont extraordinaires. On sait à quel point il est dur de gagner. Donc on n'est pas en train d'aller trop vite en besogne. Simplement, c'est vrai que parfois, dans le moment, on ne se rend pas toujours compte de ce qui est en train de se passer. Et là, encore une fois, d'un pur point de vue rendement global, ce que Luca est déjà en train d'accomplir est juste dingue. Voilà, c'est ça qu'on voulait souligner. Il y a. Je vais faire une transition avec un autre GOAT je dis pas que c'est le GOAT, mais l'un des GOAT indiscutables, en tout cas du basket français, Boris Diaw, qui a fait parler de lui encore ce week-end. Je voulais mettre voilà en avant la session du petit chelem. Vous savez, sur Basket Session, maintenant, vous pouvez créer vos propres articles, vos propres entrées pour attirer l'attention sur des choses qui vous ont intéressé. Et le petit chelem a fait une super session que je vous encourage à lire. Là aussi, je vous mets le lien dans laquelle il parle de la Coupe du Monde des Landes remportée par la modeste, entre guillemets, équipe de Biscarros menée par Boris Diaw. Chat, est-ce que tu peux nous dire, sans révéler tout ce qu'il y a dans la super session du petit chelem, si tu peux nous dire de quoi il retourne pour ceux qui n'auraient pas suivi?
Ouais, du coup, il y avait cette finale de la Coupe du Monde des Landes. Ils ont réussi à remplir les arènes de Mont-de-Marsan, 8000 spectateurs pour un match entre une N2 et une D3. Atmosphère, j'étais pas sur place, mais de ce qu'on voit sur les images, c'était assez fou, comme à chaque fois dans cette compétition d'ailleurs, qui est un peu mythique localement. C'est pour ça que Boris s'y est inscrit, parce que c'était un peu un rêve de gosse de revenir jouer comme ça avec ses potes. Ça a été, ce qui est assez fou, c'est que cette finale, et moi je l'ai appris sur le coup parce que j'ai peut-être pas assez suivi la compétition, mais l'équipe de Biscarros, malgré la présence de Boris Diaw et de certains anciens joueurs de bon niveau, a débuté le match avec 49 points d'avance sur son adversaire du jour, qui était c'est une entente de trois villages entre Montgaillard, Montsouet et Sarrazier. Et donc il fallait que cette équipe-là remonte les 49 points de retard. Il y a eu une victoire de 40 points, je crois. Ils ont quand même réussi à l'emporter de 40 points, l'entente.
Si on était parti à 0-0, quoi. 40 points, si on était parti à 0-0, parce qu'au bout du compte, ils l'ont pas emporté.
Bien sûr, c'est ça. Et donc, c'est assez fou. Il y a même eu des quelques polémiques. L'ancien joueur pro, d'ailleurs, de Pau, notamment Rémi Lesca, qui était assez frustré et qui a dit que c'était pas très, très réglo. Que ça se soit déroulé comme ça, mais bon, en tout cas, voilà, ça a pas mal fait parler. Cette session, on vous conseille de la lire, ouais.
Ouais, et puis effectivement, donc au bout du compte, c'est défaite pour l'ESMS 107-98, mais ouais. Énorme perf, parce que effectivement, remonter autant de points, c'est vraiment pas facile. C'est une équipe de N2, donc voilà, chapeau aussi à eux déjà pour leur parcours d'avoir été jusqu'en finale. Chapeau à eux de pas être passé si loin que ça de la victoire. Allez lire la session du petit chelem, vous verrez, il a plus d'infos, plus de détails, ça vaut vraiment le détour.
Et il y a une série, ouais. il y avait une série d'ailleurs, j'y pense, mais il y avait la série L'End of Brothers, je crois, qu'ils avaient fait sur cette aventure-là qui est sur YouTube, où on voit Boris et ses camarades tout au long de leur aventure.
Ouais, j'avais vu juste une petite vidéo d'annonce passée sur les réseaux où tu voyais Boris Diaw en train de faire la musculation pour se préparer par la finale qui était coaché par Teddy Riner. Il y avait quand même un encadrement du staff pas mal pour une D3.
Ça va.
Allez, pour finir, Shai, j'avais une question pour toi. Alors, tu sais que t'es notre référent WNBA. On avait parlé les semaines précédentes de différentes polémiques qui entouraient Caitlin Clark. Est-ce qu'elle était détestée par les autres joueuses? Est-ce que c'était une fabrication de la part des médias? Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de la saison rookie de Caitlin Clark. Par contre, il y a eu des faits de jeu cette semaine autour de fautes, notamment une faute antisportive de la joueuse du Sky, Kennedy Carter, qui a mis un énorme taquet à Caitlin Clark, ouais, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et dans la foulée, la coach d'Indiana, l'équipe donc de Caitlin Clark, a laissé entendre dans les médias qu'elle envoyait après chaque match des vidéos à la ligue pour montrer un petit peu le traitement de faveur qui était réservé à Caitlin Clark, des fautes pas sifflées, la dureté de certains contacts. Alors, j'avais plusieurs questions pour toi, Shai, autour de tout ça. D'une part, est-ce que tu peux revenir un petit peu pour nous sur ce qui s'est passé avec Kennedy Carter et ses déclarations d'après-match? Et puis après, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que toi, tu as souvenir d'une rookie en WNBA qui est, autour de laquelle il y a eu, voilà, qui ait suscité ce type de réaction, peut-être sur le terrain, je parle, hein, en termes de traitement de faveur, ce qui ne veut pas dire que c'est pas forcément de l'irrespect, au contraire, hein, parfois c'est justement parce que tu respectes et que tu as envie de voir un petit peu de quel bois sont faits les adversaires. Est-ce que tu as souvenir, toi, d'une joueuse qui aurait pu faire face à ce à quoi fait face Caitlin Clark sur le terrain? Je ne parle pas en termes de médiatisation et de pression médiatique.
Ouais, parce que ça, c'est inédit, de toute façon, en termes de pression médiatique, il n'y a pas de comparaison possible. Alors, pour revenir à ta première question, du coup, donc Kennedy Carter a mis un taquet, un coup d'épaule, de hanche assez brutal, on va dire, à Caitlin Clark. Mais bon, ça, on le voit dans des matchs de basket, dans toutes les divisions et à tous les niveaux. Hein, il y a eu des passes d'armes entre elles pendant une bonne partie, et du trash talk, des choses comme ça. Donc, le seul petit souci, c'est que ça n'a pas été sanctionné comme une faute flagrante sur le coup et que ça a été juste rajouté après le match. Donc, sur le coup, forcément, que Clark et sa coach se sont sentis un peu peut-être délaissés par l'arbitrage. Et dans la foulée, quand Kennedy Carter a été interrogée là-dessus, elle a refusé de répondre aux questions tout en tweetant à ce sujet, en diminuant un peu le talent supposé de Caitlin Clark à ses yeux. Bref, ça a fait pas mal parler. Sur le côté...
Je me permets de citer sa déclaration, c'était « À part le tir à trois points, qu'est-ce qu'elle apporte vraiment ?»
Voilà, alors Kennedy Carter n'est pas... elle est elle-même dans une side quest pour retrouver une forme de rédemption, parce que c'était un énorme talent quand elle arrive en WNBA, et puis elle est un peu partie en vrille, elle a disparu, elle revient cette année, elle fait des très très bons débuts de saison d'ailleurs, mais... c'est pas la plus comment dire je vais essayer d'être c'est une joueuse très très douée, mais qui en termes de communication c'est pas la plus fine, on va dire. Tout ça pour dire que ce que reproche le Fever aux arbitres, aux adversaires, tout ça, bon, je suis pas forcément d'accord. C'est une joueuse dont le talent est respecté, c'est une joueuse qui devrait, à mon sens, être plus protégée par son équipe, par ses coéquipières, par sa coach, par sa franchise, que par les arbitres, que par les adversaires, que par les médias. C'est très difficile à gérer, une telle attention médiatique, un tel talent annoncé. Ça donne envie aux adversaires de prouver que elle aussi, elle mérite d'être plus médiatisée, d'être plus reconnue pour leur talent. Et en ça, moi, je pense que c'est surtout la franchise qui doit mieux protéger Caitlin Clark, les coéquipières qui doivent donner du répondant quand il y a une provocation de ce type-là. Il faut qu'il y ait Draymond Green, qui ne dit pas que des choses intelligentes sur la WNBA en général, a parlé du fait de la présence d'une enforcer, comme on peut en voir dans les équipes NBA. Draymond Green lui-même, quand Steph Curry se fait rentrer dedans, tu sais qu'il va aller mettre un taquet à l'adversaire derrière. C'est des choses comme ça, en fait. Indiana est une jeune équipe qui apprend aussi à vivre avec la médiatisation qui accompagne Caitlin Clark. Et je pense que ça ira, mais j'aimerais qu'elle soit un peu plus à la fois préservée en termes de temps de jeu, parce qu'elle joue énormément et je la trouve complètement cramée depuis un match ou deux. Elle est usée. Elle est usée par la répétition des matchs. Elle est allée au training camp sans repos. Hein. C'est-à-dire qu'elle a fini la saison NCAA, elle est directement allée jouer et au niveau professionnel contre les meilleures joueuses de la planète, en gérant l'attention médiatique qu'on connaît, dont on a déjà parlé. Donc je pense qu'Indiana doit mieux la préserver. C'est pas aux adversaires de la préserver, les arbitres doivent siffler ce qui doit être sifflé, c'est-à-dire mettre une technique quand il doit y avoir une technique, une flagrante quand il doit y avoir une flagrante. Et globalement, elle est plutôt correctement arbitrée. La quatrième joueuse qui a le plus de lancers depuis le début de la saison, je crois. Donc les fautes sont sifflées, elle va sur la ligne, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas aux médias, c'est pas aux adversaires de protéger Caitlin Clark sur le terrain. Et du coup, j'en viens à ta deuxième question. Ça a toujours existé, les rookies les plus attendus en WNBA qui étaient testés, provoqués, enfin... Diana Taurasi, elle s'est même fait une fierté de rentrer dans l'art des rookies tous les ans, de leur montrer de quel bois elle chauffait. Elle continue de le faire, d'ailleurs à 42 ans, elle continue de mettre des coups de coude dans la tronche des rookies quand elle peut. C'est un peu le rite de passage, c'est comme ça en NBA, et c'est encore plus vrai en WNBA. C'est une ligue qui a toujours été très très compétitive, où il y a peut-être moins de place pour la camaraderie sur le terrain, c'est une possibilité, mais... ils n'allaient pas accueillir Caitlin Clark à bras ouverts sous prétexte qu'elle allait sauver la ligue ou je ne sais quoi. Elle-même n'a pas cette prétention-là. Donc, elle a un traitement qui est celui d'une joueuse qui est attendue comme une superstar. Donc, il y a des prises à deux, il y a des fautes très dures, il y a de la presse tout terrain sur elle dès la remise en jeu. C'est comme ça, en fait. C'est normal. C'est un test qui lui sera... C'est des choses qui lui seront utiles. Et encore une fois, pour moi, c'est à Indiana de mieux la préparer, de mieux la protéger face à ça. Et par contre, à côté de ça, je ne l'envie pas, parce que c'est extrêmement dur, toutes les responsabilités qu'elle a. C'est la première fois, là toujours pour répondre à ta question, qu'une rookie a autant de, autant d'attention. Même dans un passé récent, Sabrina Ionescu a été pas mal médiatisée, mais elle n'a pas eu dû faire face à autant de choses. Et les très très grandes de ce sport, bah, elles n'avaient pas la médiatisation. Tout le poids de la ligue à assumer, à porter sur leurs épaules. Donc c'est tout à fait inédit en tout point, ouais.
Oui, et puis elle ne jouait pas forcément à ce poste-là. Je pense à une Candace Parker qui avait été incroyable dès sa saison rookie. C'est que quand tu joues en plus meneuse de jeu, bah, tu as aussi toute la responsabilité d'être performante et de faire performer ton équipe, ce qui n'est pas toujours exactement la même chose quand tu joues à d'autres postes, quoi.
Bien sûr. Et je précise que, alors, parce qu'on le voit pas mal sur les réseaux, mais il y a la moitié du pays qui pense que toutes les filles détestent Caitlin Clark et tout ça. Pour moi, c'est évidemment faux. C'est un peu de la narration. Le problème, c'est que tu as des médias comme TMZ qui, après l'incident avec Kennedy Carter, sont allés faire des news pour dire que Angel Reese, qui est une autre rookie majeure de la ligue, avait applaudi le geste de sa coéquipière et qu'elle avait pris une amende à cause de ça. Que ça voulait dire qu'elle détestait Caitlin Clark. Et du coup, c'est un peu mensonger. Et du coup, ça incite à penser qu'il y a une cabale contre Caitlin Clark et que les joueuses la détestent. Les joueuses la détestent pas. Les joueuses ont envie de prouver qu'elles sont les meilleures de la planète et qu'elles vont pas laisser, quelle que soit la joueuse, entre guillemets, leur prendre un peu de lumière. Il faut qu'elle mérite. Et elle est méritante. Hein, je veux dire, statistiquement, elle fait un super début de carrière. Évidemment, c'est pas. Elle a des coups de moins bien. Elle a shooté à 1/10 cette nuit. Et comme je te le disais, elle est fatiguée. Ça va bien se passer. C'est juste un moment un peu compliqué, je pense.
Ouais, et juste pour rebondir sur ce que tu disais d'Angel Reese, qui elle aussi fait l'apprentissage de la vie de rookie, qui s'est pris deux énormes taquets face à ton équipe préférée du Connecticut la semaine dernière. Donc on sent que voilà, effectivement, pour aller dans ton sens, que c'est le lot de tous les jeunes athlètes qui arrivent au plus haut niveau avec une telle médiatisation. C'est vrai que peut-être, mais ça c'est toi qui me diras, Chai, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au-delà de Caitlin, de cette super génération et de celle qui va suivre derrière, de basketteuses ultra talentueuses avec des personnalités fortes et aussi qui ont bénéficié quand même d'une mise en avant, d'une exposition qui n'était pas forcément celle de leurs prédécesseuses. Il y a peut-être aussi un petit quelque chose de ce côté-là qui se joue. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu vois, je ne dis pas qu'il y a une cabale contre ces joueuses-là, mais ça, forcément, ça doit rajouter un petit peu de piment aussi à se dire, attends, elles n'ont encore rien prouvé, ces nanas-là, on ne parle que d'elles, on va voir de quoi sont faites, quoi.
Bien sûr, et c'est normal, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et d'un côté, on peut pas blâmer les anciennes entre guillemets qui ont trimé pendant des années, qui ont dû aller multiplier les contrats à l'étranger pour prouver leur valeur, alors que c'était les meilleures joueuses du monde. Leur demander de défendre moins fort sur des joueuses parce que c'est bon pour la médiatisation. Enfin, c'est pas possible. Et Angel Reese que tu citais, sur les fautes en question, elle s'est mangée deux fautes et Alyssa Thomas a été expulsée pour ça. Elle a pris une faute flagrante directe. Elle a été éjectée. Elle a dit je remercie Alyssa Thomas parce que ça m'apprend, quoi. Ça me montre qu'on me respecte et c'est logique, finalement. Donc oui, il y a ces enjeux-là. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait des rivalités, parfois de l'animosité. Je pense pas qu'il y ait un manque de respect. Alors, voilà, ça va à l'encontre c'est en opposition avec ce que le tweet de Kennedy Carter. Ça, c'est un plus un élément isolé. Je pense qu'elles se respectent toutes. Et en fait, c'est juste que les gens découvrent que ces filles-là sont ultra, ultra compétitrices, peut-être bien plus parfois que ce qu'on voit en NBA où on est passé sur une époque où les gens sont amis et s'entraînent ensemble et tout ça. C'est la meilleure ligue du monde avec que 12 équipes, bientôt
une
plus.
Saison courte. Une saison courte en plus. Donc,
aucun match. Il n'y a pas de match sans enjeu. Ouais. Donc, j'aime qu'il y ait ces rivalités-là, qu'il y ait ces enjeux-là, parce que c'est important. C'est effectivement une génération qui doit aider à la médiatisation du basket féminin américain et ailleurs. Donc moi je suis très content de ce qui se passe. J'espère juste que le Fever va un peu plus préserver Caitlin Clark pour parler d'elle précisément, parce que regarde ce qu'ont fait les Spurs avec Victor Wembanyama. Tout le monde disait mais pourquoi il joue que 20 minutes, pourquoi ça. Mais finalement il a pu monter tranquillement en régime, il a eu la médiatisation qui était compliquée à gérer, mais ça s'est finalement bien passé. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait pour Caitlin Clark à ce stade.
Bon, en tout cas, on va continuer de suivre ça avec attention. Chai, merci pour toutes ces précisions. En fin d'après-midi, comme on vous l'a dit, vous pouvez trouver un podcast de preview des finales NBA pour lequel on sera rejoint par Antoine Pimel. On va refermer là-dessus ce CQFR, puis on vous dit à demain. N'hésitez pas à aller sur Basket Session, voir un petit peu soit les articles de fond, de news qu'on peut faire, soit les sessions qui sont faites par d'autres internautes ou même créer les vôtres. On sera ravis de lire ça et même de souligner à chaque fois qu'il y a des sessions qui valent le détour. On n'hésitera pas à le mettre en avant. Passez une bonne journée à tous et à très vite. Ciao.
Ciao.